EPRA, EPRA.
Terre fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagnait 12,50 €. Et si on demande à molester, on gagnait 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour, l'EPRA, pour résumer, c'est une banque de programmes radiophoniques alimentée par certaines radios associatives partout en France, et puis RFI, Radio France Internationale. Alors Divergence FM propose ses programmes dans des thématiques précises, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, portrait d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle, la solidarité, ou encore eh bien, des reportages sur la politique de la ville. Alors dans cette émission, vous écoutez les reportages que nous envoyons à cette banque de programmes EPRA, et qui sont diffusés partout en France, et parfois des reportages qui viennent des autres radios associatives. Alors aujourd'hui, le programme est 100% divergence et nous allons parler lutte contre l'exclusion et nous allons aussi parler prostitution. Alors c'était le 13 mars sur la place de la Comédie. Jean-Louis Roumégas d'Europe Écologie finissait sa campagne en tractant avec ses militants. Les véhicules de nettoyage de Nicolin passaient inlassablement dans la foule pour aspirer tout ce qui traînait par terre. Mais il y avait aussi une quarantaine de stands et des mini-concerts. C'était la deuxième journée contre l'exclusion organisée par la ville de Montpellier. Une manifestation qui mettait à l'honneur les associations qui aident les plus démunis, comme la banque alimentaire. Et on apprendra comment se fournit cette banque alimentaire.
La source principale pour nous, c'est les grandes surfaces et moyennes surfaces. On a des conventions avec eux. Et tous les matins, on a 5 camions qui font la tournée des grandes surfaces et petites surfaces de Montpellier. Et là, on récupère à peu près 1000 tonnes. C'est essentiellement fruits et légumes, des laitages et de la viande, que l'on distribue le jour même.
La banque alimentaire participe à la lutte contre le gâchis. On entendra aussi Médecins du Monde, CHRS et le Mouvement d'Uni qui aide les prostituées, hommes et femmes. Alors il se trouve qu'en mars 2008, j'avais rencontré non pas le Mouvement d'Uni mais l'Amicale d'Uni. La différence entre ces deux mouvements, le Mouvement d'Uni est plutôt orienté catholique et bénévole et tente de faire cesser la prostitution. L'Amicale d'Uni, elle, est composée de travailleurs sociaux qui respectent le projet de la personne.
Pour ma part, j'ai participé à des tournées aussi. Effectivement, il y a des moments où on voit certaines difficultés. On voit, par exemple, on a un public qui ne parle pas français, des personnes issues d'Afrique. Et donc, là, on est dans un anglais approximatif. L'approche est compliquée dans ces moments-là. Donc, on ne peut pas venir une fois et essayer soit de résoudre un problème, soit de se dire, bon, on est présent, on est là. C'est quelque chose qui se fait à la longue, en fait, voilà, qui petit à petit, qui se construit avec les personnes, en fait.
Et dans ce reportage, vous pourrez entendre la voix d'Anna Karina dans un film de Jean-Luc Godard et vous en apprendrez évidemment sur la prostitution et comment ils accompagnent les prostituées. Alors, hommes et femmes, c'est important parce qu'il y a aussi des hommes. Et concernant la programmation musicale, bien, elle sera éclectique et sachez que ce que vous allez entendre maintenant, eh bien, c'est bien la première fois que vous l'entendez sur Divergence et sans doute la dernière. C'est toujours bien hein, de commencer un repas avec une petite soupe. C'était Terence Trent D'Arby et Desiree avec Delicate. C'est l'émission EPRA et on arrive au premier sujet. On estime à 3 500 000 personnes en France, 6% de la population, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit un revenu minimum de 602 euros par unité de consommation. Et il y aurait 100 000 SDF, 3 millions de personnes mal logées. Alors un week-end de mars s'est déroulé à Montpellier sur la place de la Comédie, la deuxième journée contre l'exclusion. Alors le but de la manifestation, inviter une quarantaine d'associations œuvrant dans différents domaines, mais dirigeant toutes leurs actions vers les plus démunis. Un accent donc mis sur la citoyenneté et la solidarité. Alors nous avons pu rencontrer des bénévoles de la Banque Alimentaire, Médecins du Monde, Culture du Cœur ou le Mouvement du Nid pour les associations les plus connues, ainsi que des bénévoles d'associations implantées localement. Mais avant d'entendre ce que ces bénévoles ont à nous dire, nous écoutons Julien Bonhomme, représentant la ville de Montpellier, qui a coordonné cette journée où les stands, les expos photos, les conférences se mêlaient au concert.
Ben, tout ça fait suite en fait à un audit qu'on avait fait, moi notamment, la cohésion sociale et puis Madame Annie Benezet, chargée adjointe au maire à la lutte contre l'exclusion. On avait fait un audit il y a un an et demi pour voir un petit peu qui faisait quoi sur la ville, quelles subventions elles avaient. Voilà, suite à cette sorte d'audit, on a présenté tout ça à Madame le maire et celle-ci elle nous a demandé justement d'appuyer nos efforts sur la lutte contre l'exclusion, essayer de veiller à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. Et donc on a mis en place, en partenariat avec les associations caritatives, une première journée de lutte contre l'exclusion, c'était l'année dernière au mois de mars. L'objectif étant non pas de mettre la ville en avant, mais de mettre vraiment toutes les associations concernées sur la lutte contre l'exclusion sur l'espace public. Et d'un point de vue politique, c'est un acte militant, engagé. Je vous dis, je pense qu'on est, même j'en suis quasiment sûr, la seule ville en France, la seule municipalité en France à porter ça sur l'espace public. D'autres ont tendance à essayer de cacher la misère et de surtout pas en parler.
C'était Julien Bonhomme donc, qui représentait la ville de Montpellier. Alors manger, boire sont des besoins essentiels de l'homme. En théorie, il y a de la nourriture pour tous. La Banque Alimentaire lutte contre le gaspillage en récupérant des denrées qui seront de toute façon détruites pour les redistribuer à certaines associations.
Parce que la Banque Alimentaire, sur le principe, est une association de loi 1901 qui a pour, je dirais, mission principale d'éviter le gaspillage. Donc, on essaie d'obtenir le maximum de denrées alimentaires et de les redistribuer à travers des associations ou des communes CCAS. Et donc, sur l'Hérault, on a à peu près 120 à 130 structures qui sont en convention avec nous. Donc, les associations qui sont en convention avec nous viennent en aide environ à 8 à 9 000 personnes sur l'Hérault. C'est pour vous situer les choses, on distribue environ 2 000 tonnes de nourriture, ce qui fait environ 3 à 4 millions de repas pour l'année. Et donc on n'est pas directement en relation avec les personnes en difficulté, mais on constitue un réseau en définitive avec les CCAS et associations sur l'Hérault.
Alors comment vous faites pour récupérer ces 2000 tonnes de nourriture ?
Alors on a trois sources principales. On a la source principale pour nous, c'est les grandes surfaces et moyennes surfaces. On a des conventions avec eux et tous les matins, on a 5 camions qui font la tournée des grandes surfaces et petites surfaces de Montpellier. Et là, on récupère à peu près 1000 tonnes. C'est essentiellement fruits et légumes, des laitages et de la viande que l'on distribue le jour même. Donc ça, c'est grosso modo la moitié. Ensuite, on a un approvisionnement à travers des fonds donnés par l'Union européenne et le gouvernement français, qui nous a lu un certain nombre d'euros. Et on achète à des industriels à travers des organismes des céréales ou de la forêt. Et ça nous fait environ, je dirais, 500 tonnes. Donc ça fait déjà trois quarts. Et le reste, essentiellement, c'est la collecte nationale que l'on a tous les ans, dernier week-end de novembre, et qui sur l'Hérault nous donne à peu près 200 tonnes. L'ensemble, ça nous fait grosso modo ces 2000 tonnes à l'année.
Alors la Banque Alimentaire fonctionne essentiellement avec des bénévoles, j'imagine, hein, parce que là on voit un panneau, vous recrutez encore des bénévoles.
Sur l'Hérault, on est à peu près 180 bénévoles qui sont concentrés en fait au siège où on a les entrepôts à Moguio, à côté de Moguio, et on a en fait 3 salariés. Donc ce qui nous permet de réduire nos frais, parce qu'en définitive, on a très peu de subventions et je dirais que pour faire tourner la boutique, on demande une contribution de solidarité à nos partenaires. Mais on ne peut pas leur demander trop. Donc on essaie de réduire au minimum les frais. Et en fait, les frais, c'est surtout la location, les camions et le gasoil.
Et le gasoil, disait-il. Alors, évidemment, hein, la Banque alimentaire récupère tout un tas de denrées grâce eh bien, à ces petits contrats qu'ils font avec les grandes surfaces. Mais il ne faut pas croire qu'ils récupèrent tout. Et il y a encore pas mal de gâchis concernant cette nourriture en France et de par le monde. Alors, une partie de la population française n'a pas accès aux soins hein, pour des raisons diverses. La plupart du temps, au-delà de l'incapacité à payer une mutuelle, c'est l'absence de CMU ou de carte de sécurité sociale carrément qui empêche ces personnes d'intégrer le dispositif de santé. Et Médecins du Monde, y remédie, nous les avons rencontrés.
Donc, nous avons une action sur Montpellier, nous faisons un service de consultation qu'on appelle le CASO trois fois par semaine. Il y a également un service de consultation dentaire. Et puis on intervient aussi avec le SAMU social, prévention des risques, réseau prostitution et voilà. On travaille en collaboration, c'est des médecins, infirmières, assistantes sociales et un service d'accueil. Voilà.
Combien vous accueillez de personnes ? Parce que, bon, à partir du moment où on sait qu'il y a une consultation gratuite, effectivement, ça peut aider tout un tas de personnes qui ne peuvent pas prétendre aux soins, oui. Même s'il y a la sécurité sociale en France, même s'il y a la CMU. Voilà, comment ça se passe quand on veut rentrer en contact avec vous et qui y a droit ?
C'est surtout les gens qui sont en situation de précarité, ce qu'on appelle les sans-papiers, et qui n'ont justement pas de couverture sociale. Donc voilà, environ dans un après-midi, il y a entre 15 et 20 personnes, en gros, voilà. Et la consultation dentaire se fait sur rendez-vous parce que c'est les soins un petit peu plus longs et un peu plus précis, donc c'est vraiment sur rendez-vous. Le reste, voilà, et puis on assure, on délivre des médicaments en rapport avec leur pathologie. Et on oriente éventuellement vers des services spécialisés quand cela est nécessaire.
Alors, ben, comment ça se passe justement ? Si vous orientez vers des services spécialisés, comment se passe la prise en charge de ces personnes qui, au départ, viennent vous voir parce qu'elles n'ont pas de protection sociale ?
Ben, il y a certains, chirurgiens, par exemple en ophtalmologie, il y a des ophtalmologues qui acceptent de faire des consultations gratuites. Certaines spécialités, mais pas tout, hélas. Et après, c'est les hôpitaux Saint-Éloi où il y a un service PASS qui est vraiment, prend en charge tous ces gens-là qui ne peuvent pas droit, qui n'ont pas droit à la sécurité sociale.
Voilà, c'était Médecins du Monde. Alors présent à cette deuxième journée contre l'exclusion, le mouvement du Nid qui est en contact avec les prostituées, nous leur avons demandé de nous parler de leurs actions, particulièrement en direction des prostituées étrangères qui composent une grande partie des hommes et femmes qui se prostituent.
Socialement, on peut dire que la population des personnes qui se prostituent est une population exclue, dans le sens où elle n'est pas reconnue dans la société comme une population comme les autres. Ensuite, il y a quand même une problématique de l'exclusion dans le sens où il y a toujours des problèmes économiques chez les personnes qui se prostituent, enfin toujours, il y a généralement des problèmes économiques, donc forcément on est là pour montrer que voilà, ça peut être une dérive des problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Quand on n'a pas d'argent, bah, des fois on peut se retrouver dans la prostitution.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait l'association en direction de ces personnes donc défavorisées, enfin, qui se livrent à la prostitution ?
Alors, en direction des personnes, bah déjà, on a un travail sur le terrain de rencontre, déjà, de création d'un lien. C'est-à-dire qu'on fait des sorties plusieurs fois par mois, soit en centre-ville la nuit sur les lieux de prostitution, soit en périphérie de la ville en journée. Et on va à la rencontre de ces personnes pour créer un lien avec elles, pour un lien de confiance qui va nous permettre peut-être après, par la suite, selon leur demande, de les aider à sortir de la prostitution. Mais notre objectif premier, c'est déjà de les rencontrer en tant que personnes, plus qu'en tant que personne prostituée, en fait. Vraiment en tant que personne à part entière. Après, il y a une autre action, ça va être qu'une fois qu'on aura pris contact avec elles, on va pouvoir les suivre, au local, les rencontrer sur le local pour les aider à organiser leur démarche pour sortir de la prostitution et les orienter vers les structures qui vont pouvoir les aider à trouver un logement ou à trouver un travail ou à faire des papiers, enfin en fonction de la personne, de son projet et des besoins qu'elle a.
Donc, vous l'avez dit, hein, ces personnes qui se livrent à la prostitution, c'est pour des raisons financières, bien souvent. J'imagine qu'il y a des personnes étrangères dans cette population. Est-ce que vous avez une réponse particulière à leur apporter ?
C'est très compliqué parce que les personnes qui sont étrangères, généralement, sont généralement sont dans des réseaux. Donc en fait, elles sont tenues par des réseaux de proxénètes qui les menacent, qui font tout pour les garder dans la prostitution. Donc on essaie d'avoir une approche. Ben, déjà, il faut déjà parler une langue étrangère parce que souvent, on essaie de trouver un moyen de communiquer avec elles. C'est déjà la première barrière, c'est la barrière de la langue. Et après, il faut arriver qu'elles arrivent à croire qu'elles peuvent sortir de là. Et une fois qu'elles ont le courage de sortir de là, il faut arriver à passer toutes les barrières qui sont aussi la demande de papier. Et demander tes papiers quand on est prostituée, c'est pas forcément évident. Ensuite, après, on a une action particulière qui est quand même les ateliers français langue étrangère, ateliers FLE. Donc on leur propose quand même déjà d'apprendre le français pour justement les aider à faire leur démarche, à faire tout ce qu'il faut en France en ayant un minimum de français.
Voilà, c'était le Mouvement d'Uni et le deuxième reportage sera consacré dans cette émission à l'Amicale d'Uni, donc, qui est une autre association puisqu'ils ont fait une espèce de scission dans les années 50. Alors, les sons qu'on entendait et qui perturbaient un peu cette interview, c'était un bizutage qui avait lieu aussi sur la comédie. Et ça faisait un peu contraste avec cette deuxième journée de l'exclusion. Alors, on continue avec cette fois-ci l'accompagnement social lié au logement, appartement relais et la sous-location à bail glissant. Alors, ce sont autant de dispositifs mis en place par l'association Les Escales du Logement qui aident ceux qui se retrouvent à la rue.
Je suis Nadia, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je fais partie du service Les Escales du Logement, qui fait partie intégrante du regroupement des associations qui s'appelle GAM. Donc mon service a trois actions. On a ce qui est l'accompagnement social lié au logement. Donc quand une personne est à la recherche d'un logement, on a un service spécifique qui s'occupe de la recherche, de l'installation et du maintien. S'il y a une dette locative, on se met en lien avec les propriétaires et on essaye de faire de la médiation. Ensuite, on a une deuxième action qui sont les appartements relais. On a 109 appartements relais sur la commune, sur Montpellier et ses environs. Ce sont des personnes qui, suite à une séparation, suite à une difficulté X ou Y, ont besoin d'un hébergement. Donc ce sont on a des studios jusqu'au F4. Ce sont des appartements qui sont meublés. Les personnes rentrent dans ce dispositif pendant 6 mois et c'est reconduit sur une autre période de 6 mois. Donc on a un an pour pouvoir les stabiliser, les accompagner au niveau administratif et leur permettre de trouver une solution définitive. Et ensuite, il y a mon service qui est la sous-location en vocation de bail glissant. Donc là, moi, je suis au summum au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire que les personnes ont la capacité de gérer un logement, mais du fait de leurs ressources, elles n'ont pas toutes les garanties auprès des propriétaires. Donc l'association est titulaire du bail, donc on prend un bail de 89, un bail vide, on installe une personne pendant un an, on paye le loyer, l'association qu'on refacture au sous-locataire. L'objectif c'est de garantir, de prouver au propriétaire que la personne a payé le loyer, que le logement est bien entretenu et qu'il n'y a pas de problème de comportement au niveau de la résidence. À l'issue des un an, on demande que le bail passe au nom de la personne.
Alors ça apparaît de manière récurrente dans l'actualité, on estime qu'il n'y a pas assez de logements, que les personnes n'ont pas suffisamment d'argent effectivement pour acquérir un logement, ça c'est sûr, et puis être locataire. Alors vous, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vous voir et qu'est-ce que vous faites finalement quand vous avez bien trop de demandes ?
Il faut savoir qu'on fonctionne avec, on a un budget par le Conseil Général, donc on nous donne un certain nombre d'appartements à gérer et de nouvelles captations. Donc moi, je ne peux pas dépasser mon quota. Des demandes, oui, dans mon bureau, je dois en avoir plus de 200. Alors que je peux en satisfaire que quelques-unes par mois. À moins que les propriétaires arrivent, c'est aussi l'objectif de cette journée, c'est de rencontrer les propriétaires, de leur expliquer qui on est. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes et il y a aussi énormément de logements vacants sur Montpellier. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a pas mal de propriétaires qui n'ont pas les moyens de réhabiliter leur logement, mais qui ne sont pas au courant de toutes les aides qui existent. Dans ce cas-là, ça serait bien quand même qu'elles se rapprochent des associations pour pouvoir bénéficier de subventions dans le cadre d'une réhabilitation. Mais en échange, bien sûr, elles louent à des personnes à faibles ressources.
Les Escales du Logement font partie du réseau GAM qui œuvre dans de nombreux domaines comme l'insertion par l'activité économique et Binetta nous explique de quoi il s'agit.
Je suis responsable d'une association intermédiaire, qui fait partie d'un groupement donc, qui s'appelle GAM, un groupement d'associations sur Montpellier, donc, qui existe depuis plus de 33 ans. Donc on a plusieurs pôles d'activité. Donc on a un pôle service à la personne, soins à domicile, un pôle atelier d'insertion l'activité économique et l'emploi, un pôle accueil hébergement d'urgence et puis un pôle formation et professionnalisation des aides à domicile. Donc moi, l'association intermédiaire dont j'ai la responsabilité met à disposition donc, de personnes physiques morales, donc personnes physiques particulières, tout ça, morales, donc tout ce qui est association, collectivité, entreprise, pour des missions donc, de ménage à domicile, repassage, jardinage, bricolage et puis donc tout ce qui est service à la personne. Donc on a un agrément simple de l'État pour ces services et puis on a un agrément aussi avec l'État pour l'insertion par l'activité économique. Parce que le personnel qu'on met à disposition, c'est forcément un personnel en difficulté sociale professionnelle, donc qui en plus de faire des heures de ménage à domicile, bénéficie d'un accompagnement social, et professionnel par notre équipe d'accompagnateurs.
Alors si on parle d'insertion par l'activité économique, ça veut dire que c'est pour les relancer dans l'emploi. Est-ce que vous avez des chiffres précis hein, sur ce qu'ils deviennent après qu'ils passent par votre structure?
Oui, tout à fait. Par exemple, sur ouverture, nous, l'année dernière, on a employé 199 personnes. Donc 70% de ces personnes ont trouvé un emploi en dehors de l'association. Donc ils sont passés par l'association. Il y en a qui restent un mois jusqu'à deux ans. L'essentiel, c'est qu'au bout de ces deux ans, qu'on les aide à trouver un emploi en dehors de l'AI. Donc sur les 199 personnes, 122 ont trouvé un emploi l'année dernière. Donc un emploi dans les services essentiellement de la personne. Ça peut être aussi une sortie vers la formation professionnelle, une formation qualifiante ou avec le plan de formation de la région, tout ça.
C'est maintenant à Claire Pollard, chef de service du CHRS à Adage-Reguin de Montpellier, de nous expliquer comment fonctionnent ces centres de réinsertion sociale.
Donc c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ça s'adresse à un public très varié, aussi bien personnes isolées, couples ou familles, qui sont en difficulté en matière d'hébergement, donc soit à la rue, soit des personnes qui sont expulsées, soit qui étaient hébergées, ça s'est mal passé. Et on va leur proposer un accueil et les accompagner dans leur démarche d'insertion.
Alors comment vous rencontrez ces personnes? Est-ce que vous allez vers elles? Est-ce qu'elles viennent vers vous?
Donc soit les personnes nous font des demandes directement en venant sur notre centre d'hébergement, soit leurs travailleurs sociaux vont nous faire une demande et on va étudier leur candidature. Et si on a des places disponibles, les accueillir.
Alors selon quels critères, du coup, on peut bénéficier de vos services?
Le critère, c'est en grande difficulté, avoir plusieurs problèmes, pas seulement un problème de logement, mais un problème budgétaire, familial, de santé, des gens qui vont pas bien, où ils ont vraiment besoin d'un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire, psychologues, travailleurs sociaux, médecins, infirmières, pour les accompagner dans la résolution de leurs difficultés.
Et alors, il y a combien de personnes qui viennent vous voir dans le mois? Combien vous en aidez? Est-ce que vous avez des chiffres un peu précis?
Oui. Donc nous, on a 90 places en insertion, 10 places en stabilisation, 13 places liées à l'halte soins santé. On est une maison relais d'une vingtaine de places sur Lunel. Donc tout est plein. Dès que des sorties sont prévues, et bien, du coup, on prévoit d'accueillir d'autres personnes qui sont en difficulté. Donc on n'a pas de liste d'attente. Hein, tous les mois, il faut renouveler sa demande. Et puis les critères, c'est être en difficulté, accepter de respecter un règlement de fonctionnement et d'être accompagné par des travailleurs sociaux.
Et alors ces personnes qui bénéficient donc de ces logements, de votre aide, comment ils partent de votre service? Selon quels critères, là encore, vous sentez que c'est le bon moment pour qu'ils partent et où ils vont?
Donc après, dès que la situation va être stabilisée, que les personnes retrouvent des compétences en matière d'autonomie, gèrent un petit peu leur budget, ça veut dire qu'ils ne soient pas trop endettés, on va travailler le relogement. Donc on a à peu près ces temps-ci trois familles ou trois personnes isolées qui quittent le CHRS pour devenir locataire d'un logement, donc soit dans les offices HLM, soit dans le logement privé avec un autre accompagnement qui leur est proposé, soit un appartement relais, enfin tout ce qui est offre adaptée. Donc ça fait quand même trois foyers, on va dire, où on a rempli nos missions, ils s'y retrouvent sur un projet de vie beaucoup plus autonome et dans la vie de tous les jours avec les joies et les soucis. Après, d'autres personnes vont être exclues parce qu'il y a eu des soucis de violence. Heureusement, c'est une minorité. Là encore, une minorité, ça va être des gens qui d'elles-mêmes vont retourner à la rue ou d'autres vont trouver des solutions avec des tiers, etc.
Pour terminer cette émission consacrée à cette deuxième journée contre l'exclusion à Montpellier, parlons de l'accès à la culture avec Culture du Cœur. Alors sans doute, avant de profiter de ce service, il ne faut ni avoir faim, ni être malade, ni avoir froid. Nous écoutons Juliette qui explique brièvement le rôle de Culture du Cœur subventionné dans le cadre du CUX, contrat urbain de cohésion sociale.
Nous sommes des médiateurs entre partenaires culturels et sportifs et des relais sociaux. Donc en Languedoc-Roussillon, nous avons 350 partenaires culturels et à peu près 550 relais sociaux. Et ce que nous faisons, c'est que nous demandons à nos partenaires culturels de mettre à notre disposition des places gratuites de spectacle pour que nos partenaires sociaux puissent en faire profiter des gens en grande précarité. Bah, comme on le dit, la culture est un luxe, partageons-la. Et nous, ce qu'on aime, c'est les retours des familles qui peuvent, avec leurs enfants, sortir de chez eux, créer du lien et retrouver leur place dans la société et retrouver un lien social. Voilà.
Voilà, c'était donc un reportage réalisé le 13 mars à Montpellier. Avant de retrouver le deuxième sujet de cette émission consacrée à la prostitution avec l'Amicale du Nid, on va faire une petite entrée en matière avec Monsieur William, une chanson écrite par Monsieur Cossimon, d'abord interprétée par Léo Ferré et qui là est interprétée par Serge Gainsbourg.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William, toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard, et voilà.
Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue?
Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir.
Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue?
Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang, puis dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort.
Ça ressemble pas tout à fait à la version originale hein, de Léo Ferré. C'était Monsieur William. Vous êtes sur Divergence. C'est l'émission EPRA et on va écouter donc un reportage que j'ai réalisé il y a maintenant 2 ans, à peu près à la même époque. Hein, c'était en février-mars où j'ai rencontré eh bien, la directrice ainsi qu'un travailleur social de l'Amicale du Nid.
Ça vous intéresse vraiment?
Oui.
Pourquoi?
Je voudrais gagner plus d'argent.
À Paris, je peux vous faire gagner plus d'argent qu'en province.
Ah oui? Je veux bien.
L'Amicale du Nid a été fondée en 1946. Cette association propose des ouvertures alternatives aux personnes ayant une conduite prostitutionnelle dans le respect de leur choix. Autrement dit, l'Amicale du Nid accompagne les prostituées, hommes et femmes, sans jamais les contraindre. En 1999, à Montpellier, c'est l'association La Babote qui a répondu à une sollicitation de la DAS pour mener des actions de prévention dans le domaine de la prostitution. Au début, il s'agissait d'un lieu d'accueil et puis, au fil du temps, les actions se sont développées. Dans cette première émission, nous allons découvrir l'Amicale du Nid avec sa directrice Marie-Geneviève Zaroukian et un attaché de prévention Philippe Andrès. Nous verrons les missions de l'Amicale du Nid et le volet prévention en direction de la jeunesse. Dans la deuxième partie, nous parlerons plus précisément de la prostitution de personnes issues de l'immigration.
La prostitution, bon, comme tous les phénomènes qui sont toujours semi-clandestins, pour fonctionner, elle doit rester opaque. Donc oui, il y a une prostitution visible, qui est celle avec laquelle on est le plus aisément en relation, qui est un petit peu quantifiable, disons que sur chaque ville, les services de police disent, bon ben voilà, il y a tant de personnes qui ont été identifiées comme en situation de prostitution, etc. Ce qui est assez significatif et de plus en plus important, c'est que la prostitution visible se réduit, d'autant plus qu'entre-temps est intervenue la loi de sécurité intérieure, qui a représenté, qui peut représenter une menace, enfin en tout cas, hein, pour les personnes qui est vécue comme ça par les personnes en situation de prostitution, qui font que la prostitution visible veille à se rendre de moins en moins visible et que donc tous les chiffres sont sujets à caution, puisque les chiffres qu'on peut donner à peu près tranquillement, c'est les chiffres des personnes qui sont recensées sur la route ou dans la rue à un instant T, en sachant qu'il y a énormément de déplacements, que quelquefois les mêmes personnes peuvent être recensées. Je sais pas, je donne des exemples, par exemple la nuit sur Nîmes et le jour sur les routes, etc. Donc, pour ma part, je donne pas trop de chiffres. Les seuls chiffres que je peux donner avec toute tranquillité, c'est le nombre de personnes qui est en contact avec nous. Voilà, ça je peux le dire, en sachant que dans ces nombres-là, nous avons des personnes encore en situation de prostitution, nous avons des personnes qui s'identifient comme en danger de prostitution ou qui le sont par les partenaires comme en danger de prostitution, et nous avons des personnes qui ont quitté la prostitution et qui sont dans des démarches d'insertion. Donc on le voit, d'abord c'est pas du tout significatif du nombre de personnes prostituées sur le département, ça veut juste dire que celles-là sont arrivées jusqu'à nous, parce qu'à un moment donné, ça devenait possible pour elles, quoi. Et bon, ça, je veux dire que le nombre de personnes en contact avec le service, sur une année, il tourne à peu près sur l'ensemble des actions que nous conduisons, c'est-à-dire à la fois le travail de rue et le travail d'accueil ici, il tourne autour de 300. Mais on ne peut pas en déduire que la prostitution, c'est 300 personnes. C'est certainement à la fois beaucoup plus et peut-être beaucoup moins si je considère strictement la prostitution de rue. Parmi celles que nous rencontrons à l'extérieur, il y a plus ou moins, suivant les années, 40% qui arrivent jusqu'au service. Les autres, on ne les voit que dans le travail de rue ou sur le travail de route.
Mais qu'est-ce que je dois faire exactement ?
La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation.
Est-ce que c'est important d'être belle ?
La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes. L'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits.
Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part ?
C'était le cas avant la loi du 13 avril 1946. Les prostituées étaient soumises à une surveillance policière et médicale. Désormais, la prostituée n'est plus contrainte qu'à une seule obligation, celle de se soumettre à un contrôle médical. La loi du 24 avril 1946 et le décret numéro 2253 du 5 novembre 1947 instituèrent et organisèrent le fichier national sanitaire où doivent être enregistrées toutes les femmes à l'encontre desquelles il existe des présomptions graves de récidive.
Bonjour, Philippe Andrès, Amicale du Nid Montpellier, attaché de prévention. Alors la prévention, ça se divise en plusieurs secteurs, prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est en amont des conduites à risque chez les personnes que l'on rencontre. Ce qu'on entend par conduite à risque liée à la sexualité, puisque on est ici à l'Amicale du Nid, donc, mais aussi aux violences. Ça rejoint plusieurs choses, c'est-à-dire que concrètement, on intervient dans des établissements, des collèges, ça peut être des lycées aussi. Là, on est en train de réfléchir aussi à une intervention avec des universités. Ça peut être aussi des jeunes qu'on rencontre par le biais de la PJJ, par exemple. Notre intervention avec eux, c'est plus au niveau de prévenir les risques, voir avec eux, repérer en fait les risques qui peuvent être, qui sont inhérents justement à la jeunesse en fait, puisque on est dans une société qui est en train de valoriser certains, je sais pas si on peut dire valoriser, mais bon, on a des conduites qui sont moins perçues comme à risque, mais qui pourtant le sont. Voilà, donc nous en fait, on travaille plutôt sur les représentations. On donne pas de conseils, on dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on travaille sur les représentations de chacun. Ça peut aller de justement des discriminations sexuelles, discriminations raciales aussi, c'est vrai. Ça va aussi sur le rapport de genre en fait, homme-femme, garçon-fille, masculin-féminin, parce que parfois ce rapport de genre il peut exister entre deux personnes du même sexe. Ce rapport de domination, en fait. Hein. Voilà, on essaie de travailler sur un éventail assez large, en principe, avec des jeunes. C'est-à-dire qu'on se situe dans le... là où on intervient le plus souvent, c'est dans la tranche 14-30 ans. En fait, au niveau de la prévention, la plupart du temps, nous sommes sollicités... où nous allons, nous, dans les territoires que nous avons repérés comme porteurs de la problématique que l'on travaille. Donc ça peut être dans les collèges, ça peut être dans des lycées pour des situations repérées en fait par les chefs d'établissement. Alors il peut y avoir des situations de prostitution ou de pré-prostitution occasionnelle. Donc les publics, ce sont des publics complètement variés. Sociologiquement, on ne peut pas distinguer de classe précise en fait. Voilà, il peut toute catégorie sociale, on fait pas de distinction d'appartenance religieuse, ethnique, mais vraiment, ça, c'est assez large au niveau de la prévention primaire, je parle. Il semble peut-être que les filles sont plus concernées au niveau, en jeune âge, au niveau des pratiques prostitutionnelles, mais dès qu'on commence à s'approcher du lycée et de l'université, il y a encore moins de distinction, même si on peut, pour l'instant, on est dans une phase encore où on ne peut pas avancer de chiffres précis. C'est quelque chose qui est très difficile à quantifier. L'observation dans ces pratiques à risque est assez compliquée puisque c'est quelque chose qui est caché, qui se fait soit par internet, soit par téléphone, soit par petite annonce. Je parle de conduites à risque liées à la prostitution ou aux pratiques pré-prostitutionnelles. Et donc, dans ces conditions, comment avancer des chiffres précis, comment parler de quelque chose sans être dans l'approximation, c'est pas possible.
Si j'ai bien compris, la prévention tertiaire, là, vous avez affaire directement aux personnes qui se prostituent, hein, c'est ça ? Mm-hmm. Ça, vous pouvez expliquer comment ça se passe et quelle est la principale difficulté lors de cette tâche ?
Concrètement, à l'Amicale du Nid, il y a une tournée par semaine qui se fait avec le véhicule du service sur les routes du département ou en centre-ville. L'équipe composée de travailleurs sociaux va au-devant des personnes en situation de prostitution qui sont donc en bord de route. Là, concrètement, limitation des risques sanitaires, donc c'est du matériel de prévention, préservatif, gel qui est proposé, avec aussi des documents d'information, des numéros de téléphone utiles, des orientations vers des partenaires, des conseils, mais aussi une présence du café, une boisson chaude l'hiver et une boisson fraîche l'été. Voilà, une présence, prendre le temps de discuter avec les personnes, de montrer qu'on est là, en fait. Il y a tout un dialogue, quelque chose d'assez assez chaleureux qui se passe. Les difficultés, bon, puisque l'intérêt, c'est quand même d'essayer de montrer à ces personnes, quand elles le souhaitent, quand elles le sollicitent, qu'il peut y avoir quelque chose qui est fait. Alors, rien n'est imposé, évidemment. Parfois, c'est proposé. Parfois, on attend que les personnes elles-mêmes... le demande, bon, ça il faudrait peut-être plus voir avec l'équipe comment ça se passe au niveau des tournées. Et puis voilà un petit peu en gros comment se passe la prévention tertiaire.
Pour ma part, j'ai participé à des tournées aussi. Effectivement, il y a des moments où on voit certaines difficultés. On voit, bah, par exemple, on a un public qui ne parle pas français. Des personnes issues d'Afrique. Et donc là, on est dans un anglais approximatif. L'approche est compliquée dans ces moments-là. Donc on ne peut pas venir une fois et essayer soit de résoudre un problème, soit de se dire, bon, on est présent, on est là. C'est quelque chose qui se fait à la langue, en fait, voilà, qui petit à petit, qui se construit avec les personnes, en fait. Et c'est partout pareil.
Comment est-ce que je dois faire ?
Quel que soit le quartier où la femme opère, les procédés de racolage sont les mêmes. La femme, par sa toilette, son allure, son maquillage, manifeste clairement les motifs de sa présence sur le trottoir. Parfois, malgré l'interdiction de la loi, elle approche le client, lui fait des signes, ou même l'interpelle et lui fait des offres.
À quel tarif je serai ?
Les tarifs présentent un éventail très large, allant de 300 francs jusqu'à 10 et 15 000 francs pour une rencontre qui peut durer de quelques minutes à une heure selon le cas, et que l'on désigne sous le nom de passe, et de 5 000 à 50 000 francs pour une nuit, ce que l'on appelle un coucher.
Est-ce que j'ai le droit d'aller n'importe où ?
Des essais de réglementation ont été tentés dans ce sens, à Paris notamment, où un arrêt du préfet de police du 25 août 1958 a interdit de stationner d'une manière prolongée ou d'effectuer des allées et venues répétées en vue de se livrer à la prostitution pendant certaines heures, au Bois de Boulogne, dans les avenues avoisinantes.
Et les gens qui sont dans les quartiers où, comme se disait ce monsieur, on pratique des fellations dans le hall de son immeuble, est-ce qu'il n'attend pas de nous, alors qu'il y a eu l'alternance, que nous fassions quelque chose ?
La première question pour le service, c'était d'être identifié par les personnes concernées comme susceptible d'être en relation avec eux autour des questions qui les concernaient, qui concernaient la prostitution. Et donc, le premier travail que nous avons fait et que nous continuons régulièrement, c'est du travail de rue et du travail de route. Alors, il a l'inconvénient, comme je le disais tout à l'heure, hein, de nous permettre de n'accéder qu'aux personnes qui sont sur des pratiques prostitutionnelles traditionnelles. Et c'est vrai que ce travail de rue et de route laisse sur le bord du chemin, si je puis dire, tous les publics qui aujourd'hui se prostituent essentiellement soit à partir de petites annonces, soit à partir d'Internet, soit encore dans les salons de massage, les espaces privés. Donc ça, c'est un aspect sur lequel le service réfléchit depuis longtemps, mais c'est très très difficile de trouver des moyens pertinents et pas énormément chronophages qui nous permettent d'aller à la rencontre de ces publics-là. Après, va s'engager un travail leur permettre de venir ici, donc organiser le temps et l'espace pour qu'elles repèrent les moments où elles peuvent être reçues assez rapidement, sans aucune condition, c'est-à-dire il n'y a pas de préalable. Il suffit qu'elles sollicitent de rencontrer... soit de rencontrer un travailleur social, soit qu'elles viennent sur les temps de permanence, qui sont donc deux fois par semaine, pour le moment, les mardis et les jeudis après-midi. À ce moment-là, elles vont pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc on s'efforce que cette rencontre se fasse le plus à bas seuil possible, c'est-à-dire qu'il est possible de venir ici, même si on souhaite garder l'anonymat. Il est possible de venir ici avec des demandes vraiment très minimalistes. Il est possible de venir ici lors des tables ouvertes, puisque régulièrement nous invitons toutes les personnes que nous rencontrons dans la rue à venir partager un repas ici. Alors les rythmes sont variables suivant l'intensité du travail, mais ça varie, disons, pendant un certain temps c'était une fois par mois, après on ne pouvait plus parce que la file active était trop importante. Donc là on est sur tous les deux mois et demi à peu près, hein, il y a une table ouverte. Donc ça peut être l'occasion de venir ici sans forcément porter une demande, parce que c'est difficile. Enfin, toutes les personnes qu'on reçoit témoignent de la difficulté de franchir la porte. Même si on essaie de faire qu'elle ne soit pas trop, trop lourde, c'est pas aisé quoi, hein, pour elles.
Vous avez énoncé différentes manières de se prostituer. Donc il y a sur la route, il y a par le biais d'Internet, dans les salons de massage. Évidemment, la prostitution, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas forcément, mais on a l'impression que parfois cette prostitution est complètement assumée par les personnes. Alors ces personnes que vous rencontrez, est-ce que vous rencontrez voilà, des personnes qui l'assument complètement et qui n'ont pas donc de problème et qui bon, sont peut-être contents de discuter avec vous, mais n'ont rien à demander ?
Alors on en rencontre un peu, je dirais, mais peu, parce que ça dépend aussi du moment de la rencontre et du cadre dans lequel elle va se faire. Je pense que pour presque toutes les personnes, dans un premier temps, moi je dis volontiers, on n'aurait aucun problème si la prostitution était d'emblée un problème. La prostitution, c'est d'abord une solution. Ou du moins, même si c'est un leurre de solution, si les gens s'inscrivent de manière durable dans la pratique prostitutionnelle, c'est parce qu'au départ, ils envisagent d'y trouver une solution. Et donc, pendant un certain temps, je vais dire, c'est un système de balance. À un moment donné, les bénéfices dépassent les inconvénients. Et tant qu'on est à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de demande vers un service spécialisé. C'est vraiment à nuancer parce que pour la même personne, à quelques mois d'intervalle, et on le voit bien, nous suivons ici des personnes qui pendant longtemps nous ont dit « Pour moi, la prostitution, c'est franchement pas un problème. » voilà. Et qui, 2 ans après, viennent ici en disant « Mais j'en peux plus, quoi. » Il y a à respecter les temps des gens. C'est-à-dire que régulièrement, on nous dit « Mais comment vous en avez sorti ?» Je dis « Mais moi, nous, on n'en sort personne. » Il y a un moment où les gens, où les hommes, ou les femmes, souffrent de ce qu'ils vivent. Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un espace où ils se tissent des relations qui leur font du bien, et voire même le plus souvent que c'est un espace où ce qu'ils vivent est difficile et pénible. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'ils récupèrent de l'envie de vivre, leur possibilité à assumer la prostitution, généralement, se réduit. Je crois qu'il faut vraiment faire une nuance importante entre les personnes victimes de la traite des êtres humains, donc qui, du fait de la misère dans leur pays d'origine, ont pu être plus ou moins contraintes, parce que je pense que la misère est une contrainte quelquefois suffisamment forte pour accepter des choses inacceptables. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui sont venues sous contrainte. Sous contrainte, c'était des questions de vie ou de mort pour elles ou pour leurs proches. Donc, bon, voilà. Je mets un petit peu... à part, je vais dire, ce type de public, hein, puisque il existe sur le département, même si je pense que sur Montpellier, il n'est certainement pas majoritaire. Parce que vous dites, on connaît la prostitution, moi je crois que très peu de gens, et même nous, qu'est-ce que nous en connaissons de la prostitution? Nous en connaissons ce que quelques-uns veulent bien nous en dire. Et pendant très longtemps, ils ont eu envie de n'en dire rien. Donc la prostitution que nous connaissons, c'est pour l'essentiel, en tout cas dans un service spécialisé comme le nôtre, des personnes qui commencent à souffrir de cette situation-là et qui souhaitent changer quelque chose dans leur propre vie. C'est pas toujours quitter la prostitution. C'est quelquefois faire quelque chose pour que ça devienne plus supportable. C'est quelquefois avoir un domicile personnel et pas vivre à l'hôtel. Donc pouvoir aussi tisser un espace d'intimité avec leurs proches, avec leurs enfants, avec leur famille. C'est quelquefois simplement aller mieux physiquement. Donc on va les accompagner vers des dispositifs de santé, vers tout ce qui touche à l'accès aux droits. Je veux dire, on ne vient pas ici que pour quitter la prostitution. On vient aussi ici pour aller mieux. Mais généralement, ce que je vais dire, peut-être que je m'endors un peu, mais le plus souvent, quand on va mieux, quand vraiment, et dans le corps et dans la tête, on a envie de quitter la prostitution. On a envie de tricoter des relations un peu libérées de ce genre de difficultés, quoi. Voilà.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous verrons la situation particulière des prostituées issues de l'immigration et comment l'association La Babote, membre de l'Amicale du Nid, répond à ces spécificités. Toutes les informations sur l'Amicale du Nid, c'est amicaledunis.org. Précisons aussi que vous avez pu entendre Anna Karina dans le film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie.
Alors... Je me dois de rajouter un autre élément, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième partie. Enfin, la deuxième partie était prévue effectivement pour l'EPRA, mais elle a bien été diffusée par le réseau EPRA, mais on ne l'écoutera pas forcément, nous, dans cette émission. Et notons aussi que si le film qui m'a servi d'illustration, c'était bien Godard, Vivre sa vie. La musique que vous avez pu entendre, c'était Bonobo. Bonobo qui prête aussi eh bien, sa musique pour le générique de l'émission EPRA. Alors avant de retrouver notre nouvelle rubrique La France a peur, nous allons écouter eh bien, le morceau de Noir Désir.
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimprenel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers. Si tu l'as vu mon palais, où t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les tours, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Jamais des gagnants ni des perdants.
C'était Noir Désir, gagnant et perdant.
La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
Oui, voilà, c'est la deuxième semaine hein, que nous revenons avec eh bien, cette petite rubrique « La France a peur ». Je vous avais donné la semaine dernière les chiffres du Front National au premier tour. Et il y avait deux communes hein, qui se distinguaient avec un 28,57% à Romiguière et puis un 27,55% à Montels, donc pour le Front National. Voici maintenant les chiffres du Front National au second tour dans la région. Et la première place, eh bien, Romiguière, désolé, s'est fait battre pour ce deuxième tour par Palavas-les-Flots, avec un score de 33,92%. Autant dire que les Palavasiens, je crois que c'est comme ça qu'on dit, eh bien, n'aiment pas énormément Fraîche et le font savoir. Et donc la deuxième place, en revanche, eh bien, c'est Romiguière, 33,33%. Voilà, c'est 100 divisé par 3. Et Saint-Nazaire de Pézan est à 30,26%. Et Montels, qui était aussi présent donc, au premier tour avec ses 27,55%, eh bien, n'en est plus qu'à 26,53%, puisqu'il y a eu eh bien, un peu plus de votants dans cette commune. C'est ainsi que s'achève l'émission EPRA. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion, c'est samedi, 13h30, 14h30. Je remercie Manu à la technique et je vous retrouve la semaine prochaine.